France Guimaroche vous propose une promenade estivale pour aller flâner du côté du château de Ferrières jusqu'à l'hôtel Lambert sur une île à Paris avec Marie-Hélène et Guy de Rothschild, un couple romantique à souhait. Guy de Rothschild nous entraîne dans ses belles limousines, à l'époque bénie de sa folle jeunesse, au Touquet Paris-Plage, à Biarritz, à Deauville, à Cannes et à Paris aussi, au gré de ses villégiatures. L'auto jouait un premier rôle dans la stratégie des vacances. On choisissait une villégiature en raison des qualités de la route qui y conduisait et des chances de pouvoir comparer son véhicule à ceux de ses concurrents. Pour ces raisons, peut-être j'avais élu le Touquet, où je passais 2 étés à jouer au golf et à goûter les charmes tranquilles d'une grande station balnéaire qui vivait alors anglaise. C'est alors que je découvris Biarritz. Le mois de septembre était l'apothéose de la saison. J'avais 20 ans, l'âge de la fête, et Biarritz vivait une fête ininterrompue du matin jusqu'au petit matin suivant, au milieu d'une abondance d'Espagnols et de Sud-Américains, tous très jeunes, ardents, déchaînés. À midi, devant l'hôtel du Palais, commençait le défilé des voitures, l'une plus étincelante que l'autre. Rolls-Royce, Packard, Bentley, Duesenbergs, Hispano, conduite par de fiers jeunes gens qu'accompagnaient de superbes filles au regard distant et hautain. On se baignait à la chambre d'amour ou au pied du rocher de la Vierge avant de jouer au golf sur le nouveau parcours de Ciberta. Avec les représentants titrés et bronzés des plus anciennes familles d'Europe et d'Amérique du Sud. À peine changé, il n'était pas question de se rendre ailleurs qu'au bar basque, où s'agglomérait cette faune de grands noms et de rasta, avide de plaisir, de champagne et de conquête. Je ne crois pas avoir jamais dîné à moins de 20 convives, dont beaucoup se faisaient réinviter chaque soir, ni avoir jamais failli à l'obligation de terminer la soirée chez Scheherazade, restaurant boîte de nuit situé en pleine campagne. On y accédait par une allée plantée de valets en grande tenue russe, tenant des flambeaux qui éclairaient la nuit tiède. Sur la piste de danse, quand on parvenait à l'atteindre, on inaugurait les airs toujours célèbres aujourd'hui de Ramona et de Adios muchacho, compañero de mi vida, aux accents desquels je me sens encore fondre. Ces jours de Biarritz demeurent pour moi inégalés et je m'en souviens comme de la fête la plus gaie, la plus insouciante et la plus stimulante que j'ai jamais connue. Ce n'était qu'un conte de fées, une bulle magique qui se volatilisa en 1930 avec l'effondrement économique mondial. La fête s'est retirée comme la mer, laissant une plage familiale où évolueront désormais ce que la cruauté de nos âges appelait quelques bobonnes avec leurs petits pépères et leurs rejetons. Cendrillon avait perdu sa pantoufle. Elle vient tout juste en mai 2017 de fêter ses 100 ans. Ce premier rendez-vous est celui de Daniel Darieux.
Qu'il doit être doux et tout blanc, l'instant du bruit.
La vie mondaine avait été brillante. Deauville, au mois d'août, était l'endroit par excellence, le must de la jeunesse dorée. Si à Biarritz, le casino ne jouait qu'un rôle épisodique, il était à Deauville le centre de la vie nocturne. Si Biarritz avait été dominé par les Espagnols et les Sud-Américains, Deauville était cosmopolite. Il y avait ceux qui venaient pour jouer, et jouer gros, surtout à la grande table de Baccarat, par opposition au chemin de fer où le sabot tourne. La partie de Baccarat demande un banquier qui tient tous les paris et contre lequel jouent les deux tableaux. Le banquier, celui qui joue, aurait dû être un homme riche en quête d'émotions fortes, généralement coûteuses. La banque était en réalité tenue presque exclusivement par un Grec, dénommé Nico Zographos, qui jouait professionnellement pour le compte d'un syndicat, dont il était en quelque sorte le champion. Il y avait derrière lui, ou derrière eux, une réserve de capital considérable. C'est contre cette machine que venaient se briser à la longue les joueurs les plus impénitents, car j'avais remarqué qu'ils ne pouvaient s'empêcher de réduire leurs enjeux au cours d'une passe gagnante, tandis qu'ils les multipliaient quand ils perdaient dans l'espoir de se refaire. Espoir vain. Dans cette salle de jeu qu'a illustré le caricaturiste Sem, on trouvait donc de l'argent et des femmes. Quelques noms me reviennent à l'esprit. Édouard Martinez de Oz, les Maharajas de Kapurthala, l'anglais Berry Wall, la belle américaine Eleanor Lauder, André Citroën, plus célèbre là-bas pour ses bancos que pour ses voitures. Il avait une villa sur le lait de la mer où les jeunes amis de ses enfants, Jacqueline, Bernard et Maxime, se réunissaient dans une ambiance légère et gaie qui contrastait avec l'atmosphère lourde et frelaté des nuits du casino. Thank you. Deauville était aussi depuis longtemps ce qu'elle est restée, le centre des courses aussi bien que la capitale française des grandes ventes de yearlings. Pur sang d'un an, la plupart élevés en Normandie. Les après-midi où passaient en vente les sujets les plus en vue, la foule était considérable et l'atmosphère électrique. Aux environs de 1930, une pouliche nommée Ukrania, fille du krak Tsar et d'Ouganda, gagnante du prix de Diane, fut adjugée au comte de Rivaux pour une somme alors astronomique, près de 1 million de francs de l'époque, les enchères s'étant arrêtées à 970 000 francs. Elle se révéla très mauvaise, ou plutôt ne gagna qu'une course, le prix de Diane, à une cote évidemment gigantesque. Mon père, lui aussi, passait la saison à Deauville. Il avait hérité de son père la passion des chevaux. Il en élevait depuis sa jeunesse, mais c'est précisément durant les 10 dernières années qui précédèrent la Seconde Guerre mondiale qu'il connut sa période de plus grande réussite. Il avait alors un entraîneur de tout premier ordre, Lucien Robert, qui, entre autres chevaux classiques, eut la charge de Brantôme. Un poulain exceptionnel à tous égards, le plus grand krak que mon père eut la chance d'élever. La carrière de Brantôme est célèbre, ainsi que divers incidents fort inhabituels qui l'ont jalonné. Invaincu à 2 ans, il avait gagné la triple couronne, les 3 courses les plus importantes pour chevaux de cet âge, le prix Robert Papin, le prix Morny et le Grand Critérium. L'année suivante, mon père perdit sa sœur, Béatrice Effroussy. La tradition des courses veut qu'un propriétaire en deuil ne fasse pas paraître ses couleurs en public durant un délai de 3 mois. La rentrée de Brantôme fut donc retardée. Brantôme vécut heureux et eut beaucoup d'enfants. Mon père lui vouait une véritable passion. « Je ne suis que baron, il est prince », avait-il coutume de dire. Le jour de sa mort, un journal titra en première page « Brantôme de Rothschild est décédé ». Et tous les journaux retracèrent la carrière du plus illustre krak du demi-siècle.
Oh, la belle vie, sans amour, sans souci, sans problème. Oui, la belle vie, on est seul. On est libre et l'on traîne. On s'amuse à passer sans peur du lendemain. Des nuits blanches qui se penchent sur les petits matins. Mais la belle vie sans amour, sans souci, sans problème. Oui, la belle vie, on s'enlace, on est triste et l'on traîne. Alors pense que moi je t'aime. Et quand tu auras compris, réveille-toi, je serai là pour toi. C'est ça la belle vie.
Après Deauville, la rentrée à Paris tournait toujours autour des courses, surtout le dimanche. Avant le déjeuner, il était de tradition d'aller prendre un verre au bar du Fouquet's, lieu de rencontre des turfistes passionnés. Le plus souvent, on y déjeunait au premier étage. Le dimanche soir, on allait chez Jean ou chez Bob. C'était de part et d'autre de la Place Blanche, deux restaurants tenus par 2 homosexuels qui se concurrençaient, mais qui avaient un moment formé un couple. L'un d'entre eux est mort assassiné. Les célébrités s'arrachaient les tables, mais jamais, au grand jamais, une femme du grand monde n'apparaissait dans ces lieux. On y chantait des chansons qu'on croyait osées, à peine scabreuses en réalité, dont la plus célèbre était « La fille du rémouleur ». On s'en canaillait sans risque, mais non sans gaieté. Les boîtes de nuit en vogue sont par définition peu nombreuses, et si chez Erazade et Casanova, les deux Russes, ont vu défiler tout Paris, le bœuf sur le toit a tenu longtemps le haut du pavé. Terrain de prédilection des noctambules qui connaissaient les usages, fréquentés en même temps par des artistes, musiciens, peintres ou poètes, les gloires du jour y côtoyaient des inconnus, provisoires ou définitifs, mais qui tous, bien sûr, se croyaient méconnus.
Je n'aime pas les cocktails, les festins. Je suis un peu sauvage. J'aime bien dîner lorsque j'ai faim. Tant pis pour les usages. J'aime rire quand j'en ai envie. Dire zut à qui m'ennuie. Ne pas voir les gens qui me déplaisent et me sentir à l'aise. Mais il me faut parfois me mettre au pas, car dans le monde, ça ne se fait pas. La vie mondaine, c'est la vie rêvée. Je tiens la scène, le haut du pavé. Je me démène, tout mon temps est pris. Je fais partie du tout Paris. Et les collections, les papotages, les présentations. Être au pesage le jour du Grand Paris, ça c'est la vie du tout Paris. Parfois le vent joue dans mes cheveux, je ferme les yeux, je rêve un peu. Je peux pas prendre le moindre répit. Je fais partie du tout Paris. Dans les théâtres, j'arrive à l'entracte pour qu'on remarque que j'ai la robe sac. Je suis de glace et je n'applaudis qu'avec l'air de mourir d'ennui. C'est aux premières des grands musicals qu'à la commère je glisse un mot drôle que ma grand-mère un jour m'a appris et ça fait rire le tout Paris. Alors je pars loin, loin de tout ça, en talons plats, courir les bois. J'oublie la ville, la foule et le bruit, et je me fous du tout Paris, Paris, et je me fous du tout Paris.
Un soir, j'eus la joie d'assister à la création du Boléro de Ravel. Le public enthousiaste exigea que l'œuvre fût bissée. Après quoi, pour se remettre de leurs émotions, les privilégiés en smoking s'étaient donné rendez-vous au Bœuf sur le Toit. J'accompagnais mes parents et des amis, parmi lesquels Arthur Rubinstein. Peu de temps après notre arrivée, un petit personnage timide et qui, pour ajouter à son malheur, avait oublié sa tenue de soirée, se vit refuser l'entrée. Arthur Rubinstein bondit alors comme une furie, écarta brusquement le maître d'hôtel pointilleux. Il avait reconnu le grand Ravel en personne, qui reçut une ovation. Outre le Fouquet's, les lieux élégants de l'époque étaient le Café de Paris, la Crémaillère de la place Beauvau et le Pré Catelan en saison. Mais je ne garde aucun souvenir du restaurant Maxim's en ces années 30. Il ne devait plus avoir dans la vie parisienne la place de choix qu'il y avait occupée à la belle époque et qu'il retrouva après la dernière guerre. Ce qu'on appelait la vie mondaine n'avait rien à voir avec celle que menaient les femmes entretenues. Elle était rythmée par les grands dîners. Ils réunissaient des personnes plus âgées que moi. Et les bals, même pour un jeune homme, la tenue de rigueur était l'habit et la cravate blanche. Les jeunes filles affrontaient Le Monde pour la première fois. Personnellement, je n'étais pas très attirée par ce genre de manifestation. En tout cas, je n'en ai pas conservé un souvenir impérissable. Pas plus que des rencontres que j'ai pu y faire. Quelques personnalités rivalisaient à coups de fêtes, parfois éblouissantes. Étienne de Beaumont qui disait drôlement « Je donne des balles pour avoir le plaisir de ne pas inviter certaines personnes. » Elsie Mendel à Versailles et d'autres encore.
I love Paris in the springtime. I love Paris in the fall. I love Paris in the winter when it drizzles. I love Paris in the summer when it sizzles. I love Paris every moment. Every moment of the year. I love Paris. Why, oh why do I love Paris? Because my love is here. Because my love is here. She's there. She's everywhere. But she's really here.
Cannes, dernier lieu de plaisir, cherchait à prolonger l'hiver, les fastes de Deauville, mais de façon plus languissante. Mes parents y possédaient une villa où nous passions toujours quelques semaines en février ou en mars. Après bien des palabres, mes sœurs et moi avions fini par convaincre nos parents de passer une partie de l'été dans le Midi. Quel bonheur de figurer parmi les rares pionniers qui inventaient d'autres vacances, découvraient les joies du soleil et de la mer, du vent et de la liberté. C'était un temps où la Côte d'Azur était encore un rêve, paysage sublime qui ne rongeait pas encore la lèpre des voitures, des constructions modernes et des caravanes. Vannes entassées sur les plages. Un temps où Saint-Tropez était encore un saint inconnu, modeste petit village de vrais pêcheurs, tout juste habité par quelques artistes dans le sillage de Colette. Mon père acheta un bateau à moteur, un dépujol, grâce auquel nous allions déjeuner aux îles de Lérins, nous baigner en pleine mer et dénicher de petits ports calmes et secrets de la côte. L'Agacan, grand ami de mes parents, possédait une villa au-dessus de Nice. Il appréciait la compagnie des jeunes, nous conviait souvent et partageait nos parties de golf sur un terrain qui est maintenant devenu le champ de course. Incroyablement souple malgré son poids légendaire, il savait goûter les plaisirs de la vie. Il m'arriva avec deux ou trois amis de louer un voilier et de partir en croisière autour de la Méditerranée, le long des côtes espagnoles, des Baléares et de la Riviera française ou italienne jusqu'à Naples et Capri. Ce fut au cours de l'une de ces croisières, en 1935, que voulant regagner la France depuis Valence, je pris l'avion pour la première fois. Sur ce petit appareil de l'aéropostale qui, malgré son unique moteur, faisait un bruit d'enfer, le vol ne manquait pas d'émotion. Arrivant face aux Pyrénées, le pilote dut faire plusieurs cercles afin de réussir à gagner les quelques dizaines de mètres nécessaires pour franchir la montagne en se précipitant dans un col.
Suntan, windblown, honeymooners at last alone, feeling far above par. kind you give to me. True love, so on and on it'll always be. Have a guardian angel on high with nothing to do but to give to you and to give to me love forever. To give to you and to give to me.
Et le baron Guy de conclure: jamais je n'oublierai tout cela. Seul subsistera le souvenir du passé, comme Cendrillon de retour du bal. La pantoufle de verre a disparu, le spectacle s'est évanoui. On ne peut le revoir, on est aveugle, le rideau est tombé. Marie-France Guimard-Roche retrouvera avec vous les Rothschild pour danser avec eux tout l'été dans une série d'émissions enregistrées et réalisées par Émilie Glory dans les studios d'Urocas de Radio Grand Ciel.